ce matin, ce dimanche matin. On va parler de Conan et d'Howard avec Patrice Louinet, qui a fait un gros travail. Mais j'aurais pas trop le présenter, Patrice, parce qu'il va nous raconter un petit peu tout ça en même temps, comment ça s'est fait. C'est l'histoire véritablement d'une résurrection. La résurrection d'un barbare qui a coupé pas mal de têtes.
Oui,
voilà. Peut-être une première question, Patrice. À noter quand même que Patrice est traducteur, mais que ses fonctions sur Conan, en tout cas, vont bien au-delà de la traduction. Peut-être une première question sur quand est-ce que toi tu as rencontré Conan et Howard ?
D'une façon assez classique, en tombant un jour sur des bandes dessinées, puisqu'à l'époque je lisais tout ce qui était comics Marvel, j'étais un Marvel zombie de base, et donc j'achetais tout ce qui sortait de Marvel, et un jour je vois une bande dessinée Conan, donc c'était pas mes super-héros habituels, mais bon je dis c'est pas grave, c'est Marvel, je vais acheter, j'ai lu et j'ai trouvé ça mauvais. Et lorsque le suivant est paru, je l'ai quand même acheté, puisque j'ai acheté tout ce qui était Marvel. Et celui-là, j'ai trouvé très bien. Donc, j'ai dit, bon, effectivement, c'est pas mal. Et très vite, j'ai vu, d'après le personnage créé par Robert Howard, je me suis un petit peu renseigné, j'ai appris qu'il y avait des livres qui existaient. Et donc, j'ai cherché les premiers livres, j'ai découvert et j'ai lu ma première nouvelle, qui était La Tour de l'éléphant. Et là, je me suis pris une baffe monumentale. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. J'ai commencé à chercher tout ce qu'avait pu écrire Howard, les traductions françaises. Rapidement, ça ne m'a pas suffi. Je suis allé directement aux originaux américains, aux poches américains. Et puis après, les choses se sont enchaînées, on va dire.
Ouais. C'est un auteur qui t'a accompagné tout au long de ta vie jusqu'ici. Ça veut dire que tu y revenais régulièrement. Comment ça se...
C'est même pas y revenir, c'est que j'y suis tout le temps, quelque part. C'est un des auteurs que j'ai découvert à mon adolescence et qui aujourd'hui encore m'apporte des choses. Alors que la plupart des auteurs que je pouvais lire lorsque j'avais 15, 16, 18 ans, aujourd'hui les trois quarts, je peux pas les relire. J'ai des bons souvenirs, j'ai des souvenirs émus, on va dire. Mais Howard, je trouve beaucoup de choses qui résonnent encore en moi. Et je pense qu'on a à peine écorché la surface de tout ce qu'il y a à dire sur l'œuvre howardienne.
Ouais. Quelles sont les qualités de l'écriture de Robert Howard ?
Alors, d'un point de vue général, je dirais qu'il est capable d'évoquer plus ou moins tout ce que veut y voir le lecteur. C'est-à-dire qu'il a une écriture qui est à la fois précise et générique. Lorsque quelqu'un... je m'en suis rendu compte un jour en discutant d'au-delà de la rivière noire avec des auteurs américains. Il y avait Carl Wagner, je me rappelle, Rusty Burke. Et en fait, chacun d'entre nous, on avait une... Oui. On avait une image complètement différente du visuel, du décor de la nouvelle, parce qu'en fait, en fonction des termes employés par Howard, chacun y plaçait une forme de végétation différente. Donc ce qui fait que, c'est une des clés du succès international de Howard, c'est vraiment un auteur qui est lu dans le monde entier, c'est que chacun peut y placer sa propre géographie, donc ses propres obsessions. Voilà, c'est pour moi la clé du style howardien, on va dire.
Un auteur principalement de nouvelles, est-ce que tu peux rapidement nous brosser un petit peu l'écrivain qu'il était ?
C'est un écrivain commercial qui écrit pour le marché des pulps aux États-Unis. Donc les pulps sont des revues aux couvertures bariolées, très colorées, qui ont eu leur heure de gloire entre, on va dire, 1925 et 1940. Donc c'est une littérature de la dépression, de l'ère de la dépression aux États-Unis, et le lectorat, c'est un lectorat populaire, ce sont des gens qui achètent des revues bon marché, ça s'appelle pulp, parce que la pulpe de papier sur lesquelles sont imprimées ces revues, c'est tout simplement le papier le moins cher qui existe. Et donc c'est des revues qui sont en général vendues 10 cents dans la rue, et qui offrent, on va dire, l'équivalent d'un roman de lecture d'aventure. Il y a des récits de boxe, il peut y avoir des récits fantastiques, donc dans tous les genres différents. Et Howard est quelqu'un qui va s'adapter à tous ces genres, qui va se couler au maximum dans l'air du temps, mais en développant ses propres obsessions qu'on va retrouver d'un genre à l'autre, qui laisse la patte d'un véritable auteur. Pour voir qu'aujourd'hui, lorsqu'on essaye de lire un pulp des années 20-30, dans 90% des cas, c'est totalement illisible. Aujourd'hui, on dira, oui, Weird Tales, donc c'était la revue dans laquelle il y avait Lovecraft, Howard, Clark Ashton Smith, etc. Mais lorsqu'on regarde la production de l'époque, 99% des auteurs sont oubliés aujourd'hui. Et quelque part, quand on le lit, on se rend compte que c'est normal.
ce qu'on sait assez peu, c'est que l'œuvre de Robert Howard ne se limite pas à Conan. Il y a d'autres héros, d'autres séries.
Oui, Conan, c'est une vingtaine de nouvelles, et il a complété environ 350 nouvelles, et là, je ne compte pas les nouvelles inédites. inachevés, les moutures différentes, les poèmes, etc. Donc c'est, oui, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. C'est la partie la plus connue pour pas mal de raisons assez complexes, mais il est venu à Conan assez tard dans sa carrière, en 32, et c'est un personnage qu'il a abandonné en fait en 35. Il est mort en 36, mais un an auparavant, il avait déjà abandonné Conan pour passer à autre chose. C'est juste une étape en fait dans sa vie, Conan. Mais évidemment, aujourd'hui, tout le monde ne jure que par le cimérien.
Ouais, et les autres cycles, entre guillemets, les autres héros d'Howard, ce sont également des guerriers musclés ou
pas? Il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. On a effectivement le stéréotype du guerrier musclé. Encore une fois, Conan ne correspond pas à l'image qu'on se fait du guerrier musclé. On y reviendra, je pense, un peu plus tard. Mais le héros howardien peut être totalement variable, différent, suivant les types d'histoires. Bran McMahon, c'est un roi picte qui doit mesurer 1m30, donc c'est pas du tout le grand guerrier musclé qu'on peut s'imaginer. Solomon Kane, c'est un grand type de 1m90 de haut, qui est d'un aspect cadavérique et qui est maigre comme un clou. Donc il y a vraiment tout type de héros, même si, encore une fois, l'imagerie populaire ne veut retenir de la production howardienne que le grand barbare musculeux en slip de fourrure.
Ouais, et un slip de fourrure, c'est quand même important.
C'est toujours important.
Surtout en novembre aux Imaginales. Un petit mot peut-être sur l'homme, de destin tragique parce que court. Quel personnage c'était
au quotidien? C'est un type qui aimait beaucoup rigoler, qui était parfois sujet à pas mal de sautes d'humeur assez violentes. Et c'est quelqu'un qui très tôt, il sait ce qu'il veut faire, c'est devenir écrivain. Donc aujourd'hui, c'est facile de dire je vais faire écrivain, à ceci près que lui grandit dans le Texas rural des années 20, où personne n'est auteur, parce qu'il n'y a personne qui gagne sa vie de sa plume. Et non seulement c'est pas possible, mais surtout c'est mal vu par la population qui est autour de lui. Lorsqu'il habitait donc à Cross Plains, où il a vécu de 1919 jusqu'à sa mort, les gens de la ville le voyaient et disaient mais quand est-ce qu'il va avoir un vrai boulot? Parce que, voilà, s'il ne cultive pas des patates, c'est pas un vrai travail. Écrire, c'est un divertissement, c'est tout. Or, c'était lui qui gagnait, sur la fin de sa vie, il gagnait plus d'argent que n'importe qui à Cross Plains, mais personne n'était capable de le voir comme quelqu'un qui travaillait. C'était un fou, parce qu'il vivait de sa plume.
Ouais. Il a réussi à s'imposer assez rapidement dans le monde des pulps, c'est à gagner sa vie avec ses nouvelles.
Alors, il a commencé sa carrière très tôt, puisqu'il a envoyé sa première nouvelle en 1921, il avait 15 ans. Il dit voilà, je veux faire auteur. Et donc, il envoie des textes partout. Il écrit comme un chien fou à l'époque. Il prend sa machine à écrire, il commence à taper. Puis, une fois que c'est fini, il envoie le texte à la revue, qui évidemment va le rejeter parce que c'est pas bon, c'est même pas relu, etc. Et progressivement, au fil des ans, il va devenir de plus en plus professionnel. Et le déclic, il se fait en 1927, au mois d'août, puisque là, ses parents lui disent bah, écoute, il faut quand même que tu cherches un travail. Et le travail qui l'attend, c'est comptable. Il a commencé à faire des études de comptabilité qui ne le passionnent absolument pas. Et là, il passe un deal avec ses parents. Il leur dit, écoutez, on va faire quelque chose. Vous me laissez une année. Et pendant une année, vous me soutenez financièrement. Je reste là et j'essaye de devenir écrivain professionnel. Et si au bout d'un an, je n'y suis pas arrivé, bah ok, je ferai ce que vous voulez. Et les parents disent ok. Deux semaines après, il écrit la première nouvelle de Cull, et environ deux mois après, la première nouvelle de Solomon Kane. C'est-à-dire qu'en deux semaines, il avait gagné, grosso modo, gagné son pari. Et depuis, il n'a plus cessé d'écrire.
Un petit mot sur l'ambiance à l'époque, puisqu'on est aux États-Unis, on est dans les années 20, ça n'a vraiment strictement rien à voir avec ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Comment ça se passe? Tout se fait par courrier, il correspond beaucoup avec d'autres auteurs. Quelle est un peu l'ambiance générale?
Alors, c'est une évolution qui concerne Howard. Ça veut dire que lorsqu'il commence sa carrière, il est tout seul. Il n'y a personne. Il a juste quelques amis dans une ville pas loin de Cross Plains. Donc, Cross Plains, ça fait 1000 habitants en 1920 et ça fait 1000 habitants en 2013. Hein. Donc, c'est vraiment la même ville aujourd'hui. Il a quelques amis qu'il rencontre lorsqu'il est à Brownwood. Donc, c'est la grosse ville qui fait dans les 25 000 habitants à l'époque. Et il rencontre des gens qui sont intéressés par ce qui est littérature, mais en amateur. Et progressivement, plus il devient professionnel, plus il va essayer d'aller toucher des gens qui sont hors de son cercle géographique. Et l'explosion se fait en 1930 lorsqu'il rentre en correspondance avec Lovecraft. Et là, en quelques mois, il commence à correspondre avec tous les gens du cercle lovecraftien. Et donc là, ses correspondants qui, avant 1930, étaient tous des gens du Texas, passent après 1930 quasiment tous en dehors du Texas. Et donc, il est exposé à énormément de choses dont il ne soupçonnait pas l'existence auparavant.
Un petit mot sur la correspondance avec Lovecraft. Elle est abondante, riche, totale.
Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, il n'y a pas d'autre terme. Elle survit à 100% pour la partie Howard Lovecraft. Elle survit à 25% pour la partie Lovecraft Howard, malheureusement. Mais c'est une correspondance d'une richesse monstrueuse. On a deux géants littéraires qui s'affrontent sur des milliers, pas de pages, mais de si, on va dire. Elle doit faire si on les a en volume en français, on en aurait pour environ, je pense, 1300, 1400 pages. Pour 6 ans de correspondance. Et ils vont aborder l'écriture, la politique, le climat, la nourriture, les voyages, bref, tous les sujets qui les passionnent. Et ces deux types qui travaillent dans le même milieu, la littérature fantastique de l'époque, qui sont totalement, par certains côtés, aux opposés l'un de l'autre, et très proches aussi. Ce qui en fait une lecture absolument mais passionnante. D'autant plus que les deux sont, en anglais, c'est des master bullshitters. Donc les deux n'arrêtent pas de dire des choses, mais absolument insensées, pour essayer de convaincre l'autre qu'il a bien raison. Ouais. Et donc on arrive sur des passages qui sont absolument jouissifs au possible.
Tu l'analyses comment, cette émulation? Est-ce que ça va servir son œuvre? Sans cette correspondance, on n'aurait pas eu le Howard qu'on connaît?
C'est évident. C'est la partie. Lorsque Howard rentre en correspondance avec Lovecraft en 1930, Monsieur Lovecraft, c'est la référence absolue. Je ne suis qu'un humble écrivaillon du Texas profond. Jamais je n'arriverai à égaler votre talent incroyable. Et pendant quelques semaines, Howard se met à singer Lovecraft. Mais vraiment, elle s'ingère, reprend tous les tics les plus affreux de Lovecraft sur l'écriture. Je ne peux pas ne pas négativer ma phrase. Bref, mais quelle est cette chose immonde qui arrive par la fenêtre? Non, 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 la nouvelle s'interrompt. Pendant plusieurs semaines, donc, Lovecraft vraiment va plus qu'imprégner l'œuvre Howardienne, il va carrément le phagocyter. Et puis, progressivement, Howard va commencer à se dégager de cette influence, cette gang Lovecraftienne, pour prendre ce qui lui plaît chez Lovecraft et arriver à écrire des textes qui sont perso. Il fait ça après avoir écrit une nouvelle qui s'appelle La Pierre Noire, qui est aujourd'hui reconnue comme étant la meilleure nouvelle Lovecraftienne non écrite par Lovecraft. Et puis, il va commencer à intégrer des éléments de Lovecraft dans sa fiction. Et le premier truc où il va vraiment arriver à le faire de façon exemplaire, c'est la première nouvelle de Conan. Alors, parce que la création de Conan et donc de l'heroic fantasy moderne, c'est simplement prendre un récit historique sur lequel on va greffer des éléments horrifiques. Et pour Howard, les éléments horrifiques sont des éléments Lovecraftiens. Dans la première nouvelle de Conan, Le Phénix sur l'épée, dans les premières versions, il y avait plein de références à Cthulhu, Tsatogar, enfin toutes les divinités Lovecraftiennes. Donc oui, c'est une influence majeure. Et au fur et à mesure, Howard, en tout cas dans la correspondance, prend l'ascendant sur Lovecraft. Il commence à le renvoyer, mais direct lorsqu'ils ont des échanges. Et ça va culminer sur 1934-1935. En 1934, Howard écrit une nouvelle d'horreur qui s'appelle Les Pigeons de l'Enfer, qui est une nouvelle absolument exceptionnelle et qui a été écrite juste après des échanges avec Lovecraft. Dans Lovecraft lui disait non, mais la Providence, Rhode Island, c'est la seule région où on peut créer des nouvelles d'horreur absolument géniales, parce que ben voilà, c'est Rhode Island, c'est Providence. Et Howard écrit cette nouvelle d'horreur dans laquelle le protagoniste vient de Rhode Island. Il n'est jamais dit que c'est Lovecraft. Hein. Les chapitres s'appellent celui qui sifflait dans les ténèbres. C'est juste discret. Et là, en fait, ça se passe entièrement dans le sud des États-Unis. Et Howard écrit une nouvelle dans laquelle on a peur. Stephen King trouve que c'est une des meilleures nouvelles d'horreur qui ait jamais été écrite. Et en fait, Howard est en train de démontrer à Lovecraft. Mais non, vieux, t'as tort. Parce que, voilà, je te montre qu'on peut avoir peur, même quand on est dans le sud des États-Unis. Et ensuite, il y a des échanges assez fameux sur lorsque Lovecraft dit « Ah, ce Benito Mussolini, quel homme extraordinaire, ce qu'il fait en Éthiopie. » Howard lui rentre dans les plumes, il dit « Mais attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est n'importe quoi, il est en train de massacrer, de gazer les Éthiopiens, c'est juste un boucher qui se pare des attraits de la civilisation pour justifier ces massacres. » Donc on a vraiment une évolution, ce qui fait que là aussi cette correspondance est passionnante, c'est qu'au départ on a un Howard qui est très très soumis par rapport à Lovecraft, et très progressivement on voit une balance qui va se faire, et progressivement Howard qui prend l'ascendant.
Lovecraft, c'est le correspondant principal, ou est-ce qu'il y a d'autres choses importantes avec d'autres auteurs?
C'est le correspondant principal en termes de volume, en termes d'importance, de quantité, de qualité. Après, il a correspondu avec la plupart des auteurs du cercle Huertaise, hein, Aston Smith, Derleth, etc. En termes de volume, il y a beaucoup de lettres à son ami du Texas, Tavis Clyde Smith, qui n'est pas, enfin, qui avait écrit quelques nouvelles, mais qui n'est pas un auteur à la base. Mais c'est beaucoup plus des lettres de jeunesse qui font une page, deux pages, ça va, puis on va boire une bière, on se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est moins intéressant.
Une petite question sur, toujours sur l'ambiance et peut-être sur les influences. Parce que, évidemment, nous aujourd'hui, quand on parle de fantasy ou de fantastique, que ce soit Lovecraft, que ce soit Howard, ce sont évidemment des influences majeures pour de nombreux auteurs. Mais quelles sont les influences, entre guillemets, quelles sont les racines de l'imaginaire de Howard ?
C'est principalement les auteurs populaires américains des années 20, des années 30, et ainsi que les auteurs classiques, tout simplement. Si je devais citer l'auteur populaire américain qui a le plus influencé Howard, pour moi, c'est Harold Lamb. C'est un auteur qui n'est pas traduit en français, qui va l'être cette année. Mm-hmm. J'ai appris ça. Donc, avec l'histoire de Kozak, qui, dont le ton est très, très similaire à ce que peut faire, Howard. Shakespeare est un des auteurs qui l'influence le plus. Il y a des citations cachées, déguisées ou pas déguisées du tout, d'ailleurs, qui apparaissent dans les nouvelles de Conan, de Solomon Kane. On retrouve les obsessions shakespeariennes chez Howard à beaucoup de niveaux. Et dans les auteurs, il y a très très peu d'auteurs fantastiques. Howard est quelqu'un qui vient, à la base, un auteur de récits historiques ou de récits d'aventure, et qui va, pour vendre ses récits, se rendre compte qu'il sera plus simple d'intégrer un élément fantastique plutôt que de rester fidèle à la réalité historique. C'est ça l'heroic fantasy que crée Howard, et c'est comme ça qu'involontairement, en fait, il va créer l'heroic fantasy.
D'accord. Comment est né un petit peu, on va parler un petit peu de Conan évidemment, comment est né le personnage, à quel moment tu as commencé à le dire ?
Il est né en mars 1932, en fait il est né en février ou mars 1932, on ne sait pas trop, lors d'un voyage de Howard. Howard explique à ses correspondants que depuis des mois il était incapable de vendre quoi que ce soit, d'écrire quelque chose. Alors c'est du Howard, quand on lit Howard il faut faire très attention à ce qu'il raconte parce qu'il a une tendance naturelle à l'hyperbole. Et donc il prend quelques jours de vacances et il va se promener dans le sud du Texas près de la frontière mexicaine et là il arrive près de Mission, qui est une toute petite ville. Et il est sur des collines qui sont embrumées. Ce jour-là, on est en février, ça arrive parfois. Et là, il a l'idée d'écrire un poème qui est suggéré par ce paysage. Et le poème, c'est Cimérie. Et donc, c'est le poème qui décrit la contrée natale de Conan. Alors, c'est une contrée natale qui est absolument terrifiante. C'est une contrée sinistre, pleine de collines, de vent, d'ombre. Et donc, il appelle ce poème Cimérie et il écrit ça en février 32. Et quelques jours avant ou quelques jours après, on ne sait pas, il a l'idée d'un personnage qui s'appelle Conan et dans lequel il dit, bah, ce personnage, il a jailli comme ça tout d'un coup à mon esprit. Lorsque Howard dit ça, encore une fois, il faut toujours, toujours se méfier. C'est a priori, il avait des idées qui devaient être là en lui. Alors c'est assez complexe de refaire tout le processus, mais on s'aperçoit, lorsqu'on étudie bien la chronologie des nouvelles et de leur rédaction, que pendant plusieurs semaines, il y a des thèmes qui commencent à travailler. En particulier, il y a la réincarnation, il y a les époques barbares, il y a des considérations aussi de marché qui se mettent en place. Et donc, à un moment, il se dit, ben voilà, il a l'idée de ce barbare, il a l'idée de la Cimérie. Et puis, cette idée de « j'ai envie d'écrire des romans historiques, mais je ne peux pas parce que financièrement, c'est juste pas viable, parce qu'il faut faire trop de recherches ». Lorsqu'il écrit la nouvelle dans laquelle il crée le personnage de Sonia Larousse, il doit lire 3 ou 4 bouquins, prendre des notes, etc. Donc, par rapport à une vente d'une nouvelle, ça devient extrêmement complexe. Et là, il a cette idée, il dit « ben voilà ce que je vais faire, au lieu de faire un cadre historique, je vais inventer mon cadre historique ». Et donc il dit, ben voilà, je vais faire, on va appeler ça l'Aquilonie, mais ça correspond globalement à l'Angleterre médiévale, et puis je vais mettre la Cimérie avec les pays nordiques à côté, et en fait il crée tout cet univers-là de briques et de brocs, je dirais, comme ça, il jette les bases en fait, mais il improvise complètement, puisque personne n'a jamais fait ça avant lui.
Quelles sont au tout début les caractéristiques du personnage et comment est-ce qu'il va évoluer ?
Alors le personnage n'évolue pas, c'est ça que je trouve assez intéressant et qui gêne aussi beaucoup de monde. C'est-à-dire que les volumes s'appellent Conan le quelque chose pour des raisons commerciales, mais lorsqu'on lit l'intégrale et les œuvres de Howard, il n'y a aucune nouvelle dans laquelle le nom Conan n'apparaît dans le titre. Parce que les nouvelles de Conan ne sont pas centrées sur un personnage. C'est pour ça que dans le travail que j'ai pu faire, pour moi il était important de ne pas restituer les nouvelles dans l'ordre de la biographie entre guillemets du personnage, parce que c'est un personnage qui n'a aucune biographie. On ne sait rien de ses parents, on ne sait pas où il est né, il n'y a aucun épisode sur son enfance, on ne sait rien, on a juste quelques épisodes qui sont racontés au hasard. Ce que disait Howard, c'était, ben voilà, vous imaginez un guerrier qui au soir de sa vie se retrouve dans une taverne, il s'assoit et puis il a des amis et puis il commence à raconter des épisodes significatifs de sa vie. Et donc ça va passer d'un épisode où il a 20 ans, où il a 30 ans, il n'y a aucun ordre, aucune logique et surtout il n'y a aucune progression dans les nouvelles de Conan. Et ça qui est extrêmement important à saisir. Donc Conan, c'est un personnage, lorsqu'on a lu quelques nouvelles, on comprend qui il est, on comprend comment est-ce qu'il réagit. Mais l'intérêt de la nouvelle ne réside pas sur le personnage, mais sur ce qui se passe. C'est un catalyseur, c'est quelqu'un dont l'arrivée va provoquer des événements qui étaient déjà en gestation. Et la présence de Conan fait que ben, voilà, tout s'accélère.
Il y a une évolution dans les nouvelles, dans les thématiques ou même dans la construction du monde?
Alors, dans la construction, il y a quelques évolutions, mais très globalement, Howard, en 32, lorsqu'il crée le personnage, il écrit un article assez long qui fait une dizaine de pages dactylographiées, qui s'appelle L'Agiborien, dans lequel il décrit le cadre très général des nouvelles de Conan. Mais c'est pas fait pour être publié, c'est juste pour lui, pour se faire une sorte d'aide-mémoire, pour essayer de... Parce que Howard a besoin de comprendre l'univers dans lequel évoluent ses personnages. Lorsqu'il écrit ses nouvelles historiques, bah, il se renseigne. Donc bah, il fait pareil pour Conan, et vu qu'acceptait qu'il a inventé la Cimérie, la Kylonie, etc., bah, il dit, bah, voilà, il écrit lui-même son histoire. Et une fois qu'il a ça, il reste fidèle à cette conception. Alors parfois, il se permet des écarts. Si une histoire demande de transformer une ville en pays ou un pays en ville, bah, il le fait, ça ne lui pose aucun souci. Et il y a une évolution, mais l'évolution, elle se fait au niveau stylistique et au niveau des obsessions de Howard. C'est-à-dire que Conan, pour lui, c'est juste un véhicule. Lorsqu'on voit les premières nouvelles du Cimérien, bah, c'est influencé par du Lovecraft. Il y a une période où il vend des récits orientaux, bon, qui fait une sorte de Conan qui va chez les Cosaques, donc le nom est assez transparent. Lorsqu'on s'intéresse au monde celtique, on a des nouvelles dans lesquelles il y a une influence celtique assez forte. Sur la fin de sa vie, lorsqu'on s'intéresse au western, on s'aperçoit que, bah, par exemple, Les Clous Rouges ou Au-delà de la Rivière Noire sont des nouvelles qui sont inspirées par ce que pouvait lire ou faire Howard en allant au Nouveau-Mexique ou dans l'histoire du Texas ou du sud des États-Unis. Bref, c'est un véhicule, Conan. C'est juste un outil qui est parfait pour lui pour faire ce qu'il veut. Ça lui permet. L'invention de Conan, c'est ça. C'est, tiens, je vais trouver une façon qui va me permettre de faire ce que je veux, comme j'ai envie, sans avoir à me préoccuper de l'histoire ou de ce qui se passe. En 1932, il y a un lecteur qui lit une nouvelle historique de Howard. S'appelle Le Seigneur de Samarcande, qui est une nouvelle absolument sombrissime au possible. Tout le monde meurt à la fin, c'est un truc assez horrible. Et à la fin, le personnage, dans un geste très, très mélodramatique, il va tuer un autre type avec une sorte de pistolet qui n'existe pas à cette époque, enfin le modèle particulier. Et il y a évidemment un auteur qui dit, non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça, monsieur Howard, il est pas mort comme ça. Il dit, je m'en fous, c'est une nouvelle historique, je fais ce que je veux, c'est pas la vérité. Et donc, dans Conan, personne ne peut lui reprocher d'avoir utilisé tel ou tel modèle d'arme parce que ça n'existait pas, c'est lui qui décide.
Il ne fait que Conan pendant cette période 32-36?
Absolument pas.
Ou c'est un auteur foisonnant qui passe d'un truc à l'autre?
Oui, c'est juste une partie, je dirais, une partie faible de sa production. C'est une vingtaine de nouvelles sur un type qui, entre 30 et 36, a dû pondre, on va dire, 200 nouvelles. Donc c'est 10%.
Et en termes de... qu'on comprenne bien l'impact à l'époque. Conan, c'est un succès tout de suite? Il est connu, reconnu pour Conan ou au contraire, c'est mineur?
C'est, je dirais que ça met un petit peu de temps, ça met un ou deux ans pour que Wirtel se rende compte de l'impact de Conan. Il faut quelques mois. Au début, lorsque la première nouvelle paraît, le nom d'Howard n'apparaît même pas sur la couverture ou ni Conan. En 34, sur l'année 34, Wirtel fait paraître 12 numéros. Il y en a 10 qui ont du Howard dedans, 9 avec du Conan, et il a 5 couvertures. C'est juste voilà, énorme. Ouais. Donc c'est un gros poisson de la petite revue qu'est Wirtel. Aujourd'hui, Wirtel, c'est oh, Wirtel, quelle revue magnifique, quelle revue. Alors qu'à l'époque, c'est quand même une revenue de seconde catégorie. Ouais. Donc voilà. Donc c'est un gros poisson de la petite mare.
On va passer dans deux secondes à l'aventure éditoriale, mais tout simplement, pourquoi est-ce qu'il abandonne ce personnage?
Parce que Wirtel ne le paye pas.
Ouais.
Tout simplement, lorsqu'il est en 35, juste avant d'écrire Les Clous Rouges, il écrit une lettre à Wirtel. Il dit, écoutez, là, vous me devez 700$. Donc il serait quand même temps que... Alors 700$, aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais vous imaginez à l'époque, 700$, c'est le revenu annuel de quelqu'un, on va dire. Donc c'est juste énorme. Et bah voilà, s'il vous plaît, payez-moi, parce que là, j'y arrive plus, j'ai ma mère qui est hospitalisée, donc j'ai besoin d'argent. Et il va écrire encore une nouvelle qui est Les Clous Rouges, pour laquelle il ne verra n'aura jamais de l'argent, puisqu'il sera mort entre temps. À la mort de Ward, Wirtels lui devait $1,350, donc un an et quelques après. Donc voilà, donc c'est automatiquement, à partir du moment où sa mère était mourante, elle devenait grabataire, donc ça mobilisait beaucoup, beaucoup de son temps. Et donc il n'avait plus le temps d'écrire, et donc automatiquement il n'avait plus le temps d'écrire pour une revue qui ne le payait pas.
Un petit mot sur Lovecraft. Lovecraft considérait comment Conan ?
Sur Conan, il n'a pas dit grand-chose, mais il adorait Howard.
D'accord.
Voilà, je peux pas. Donc il y a quelques nouvelles qu'il aimait bien, mais il jugeait pas en termes de personnage. Il préférait Cull, je crois. Donc il n'y a pas de commentaire majeur sur les nouvelles de Conan.
Petite question sur l'aventure éditoriale, hein, du coup. Quand est-ce que Conan, par exemple, débarque en France ? Dans quelles conditions ? Comment est-ce que les lecteurs français l'accueillent ?
Alors, il démarre en 66 dans Planète, la revue de Bergier, qui décide de traduire Le Phénix sur l'épée. Et donc, c'est à l'époque du Matin des magiciens. Et donc, le Bergier, qui a correspondu avec Lovecraft, qui est quand même un grand monsieur de l'époque, dit « Ah, c'est les aventures de Conan, ce guerrier viking de 12 000 ans. Enfin, » Il fait 8 erreurs dans une phrase. C'est pas possible, le type, il a pas lu la nouvelle qu'il traduit lui-même, quoi. Et il décide de s'aborder environ 40% du texte pour arriver à faire rentrer dans la revue. Donc, c'est la première apparition de Howard en France. Après, il faut attendre quelques années, et là, il y a un monsieur qui est très important en France sur Howard, qui est François Truchot. Et Truchot est à l'époque, sort à l'époque d'une école de cinéma, et il tombe lors d'un voyage, je crois, à New York, sur les éditions américaines avec des couvertures de Frazetta. Il dit « Waouh, c'est absolument génial, j'adore Frazetta ». Il achète les livres juste à cause des couvertures de Frazetta. Il lit ça, il dit « Mais c'est absolument génial ». Et donc là, il a quelques contacts dans le monde de l'édition. Il dit « Bah ouais, je vais traduire ça en France, c'est juste génial ». Vous êtes traducteur ? Non, mais c'est pas grave. Et donc, il s'improvise traducteur du jour au lendemain. C'est une tradition, d'ailleurs, qui n'a pas changé. Hein. On devient traducteur facilement. Et donc, il fait paraître ça. Il y a 3 volumes qui paraissent en France en 72, audition spéciale, donc la Thèse, qui ne marche pas super puisque la collection est arrêtée. Après, il faut attendre toujours la Thèse en 80, où là, il y a une intégrale en 8 volumes qui est la reprise de l'édition américaine qui paraît et qui a un succès, on va dire, correct, puisqu'il y a des volumes qui sont réédités. Et ensuite, ils paraissent chez J'ai lu, qui reprend les couvertures de Frazetta, et voilà, jusqu'en 2000. Ça, c'est le début de Howard en France.
Ouais, le début du mythe, entre guillemets, Conan, ça veut dire qu'entre les traductions de Berger, de Truchot, il y a une attente des lecteurs, c'est un auteur qui devient majeur à redécouvrir, inconnu. À quel moment, en fait, il prend sa substance pour être ce qu'il est.
Le succès littéraire, il vient dans les traces, si je puis dire, du succès en bande dessinée. C'est juste après la sortie du film de Milius que voilà, les éditions en bande dessinée commencent à redémarrer et l'intérêt pour le personnage arrive. Mais ça reste, on va dire, un auteur culte plutôt qu'un auteur reconnu. C'est toujours encore un peu le cas. Moins, mais c'est toujours un peu le cas.
Ouais. En termes d'auteur culte, il y a... Je voudrais qu'on parle quand même du film, avec Schwarzenegger. Quel impact ça a eu concrètement sur la connaissance de Conan vis-à-vis des lecteurs ?
Ça a eu un impact assez en fait, limité en termes littéraires. Ça a eu un impact énorme sur ce qu'est Conan pour le grand public. Et donc là, voilà, l'image du grand barbare musclé en slip de fourrure, c'est le film de Milius. Hein, faut pas oublier que donc Milius à l'époque, Arnold Schwarzenegger ne parle pas ou très peu anglais à l'époque du film. C'est la raison pour laquelle il y a cette musique de Paul Douris qui est omniprésente. C'est parce que il doit avoir, je crois, 50 mots dans tout le film. Ouais, Donc, ce qui fait que le film de Milius, alors quelles que soient les qualités qu'on peut lui prêter, il va donner au public l'image de cette créature analphabète. Ouais. Donc, c'est à la fois un bienfait, puis ça permet à plein de gens de découvrir le personnage de Conan, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 30 ans après, j'ai toujours besoin d'expliquer aux gens, non, attendez, Conan, c'est pas Arnold, quoi.
Ouais, le personnage est un peu plus complexe que,
voilà.
Que ça, concrètement.
Comment ? On a eu une BO voilà, majeure, c'était le bienfait qui est venu avec la malédiction.
Est-ce que pour Howard, donc On a bien compris que Conan arrivait progressivement en France au fur et à mesure des éditions et des rééditions. C'est le même cas pour les autres personnages ou pas du tout? On se concentre essentiellement sur Conan?
Non, la mystique Conan est vraiment à part.
Ouais.
Pourquoi? Parce que, en fait, la plupart des... encore une fois, le personnage populaire se base principalement sur les nouvelles où c'est Conan qui est accompagné d'une demoiselle au charme, on va dire, évident et à la cervelle inintéressante. Et apparemment, c'est le stéréotype majeur qui plaît chez beaucoup de gens. Or, ça concerne 3-4 nouvelles de la série qui sont de très très loin pas les meilleures.
Aux États-Unis, c'est le même phénomène ou est-ce qu'il y a un engouement plus important?
Alors, aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Ça, c'est quelque chose qu'en France, on a encore du mal à comprendre. Même aux États-Unis, c'est vrai aussi. La révolution, elle se fait aux États-Unis en 65. Et lorsqu'on demande aujourd'hui aux amateurs de fantasy, voilà, quelle est la date clé de la naissance, on va dire, de la fantasy, tout le monde va dire, c'est le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, lorsqu'il sort en Angleterre, c'est un livre qui paraît uniquement en édition cartonnée, puisque Tolkien refuse de le faire paraître en poche. Et donc c'est un bouquin qui se vend bien, mais qui n'est pas un succès planétaire, etc. Le succès de Tolkien, il date de 1965, et d'un monsieur qui s'appelle Donald Volheim, qui est un personnage clé de l'édition américaine, et qui dit, tiens, il croit voir une sorte d'erreur dans le contrat du Seigneur des Anneaux, qui dit qu'apparemment, on peut le publier aux États-Unis sans payer de droits. Donc Volheim dit, tiens, je vais faire une édition. Et donc, il fait paraître en 3 volumes le Seigneur des Anneaux en 65. Et là, c'est un succès monstrueux. Ça oblige Tolkien à faire paraître une édition autorisée dès l'année suivante. Et d'où le succès planétaire de Tolkien à cette époque. C'est là où on a les trucs avec Gandalf président, tous les hippies à San Francisco en train de fumer leur cigarette qui font rire, cite le Seigneur des Anneaux. Et en même temps, en parallèle, en 65, Volheim doit refuser de faire reparaître Conan, puisque il y a un monsieur qui s'appelle Sprague de Camp qui dit, ça serait bien qu'on fasse reparaître Conan, mais regardez, j'ai ajouté plein de nouvelles pour compléter le cycle. Volheim refuse, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il irait payer Sprague de Camp pour publier les textes de Howard, vu que Volheim connaît très très bien Howard depuis, enfin, il le connaissait de son vivant, donc voilà. Et du coup, les nouvelles de Conan paraissent en 65 aux États-Unis, et les tirages de l'époque se chiffrent en millions d'exemplaires. Donc vous avez deux œuvres fondatrices, Tolkien et Howard, qui toutes les deux ont connu des éditions, des pérégrinations éditoriales durant les années 30, 40, 50 pour Howard, 50, 60 pour Tolkien, mais qui toutes les deux deviennent énormément populaires fin 65 aux États-Unis. Les deux sont nés en même temps. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit de plus en plus de l'importance de Howard, mais pendant des années, on est quand même vécu dans l'illusion que ça a commencé avec Tolkien. Or, c'est faux.
Ouais, il y avait les deux. Très clairement. Un petit mot sur Sprague de Camp, justement. On parle des sujets qui fâchent. Non, globalement, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Quelle importance il a eu pour le cycle?
Alors, Sprague de Camp est quelqu'un qui a voulu faire de l'argent sur Conan, qui l'a dit, qui l'a écrit, qui me l'a dit de visu. Aussi, Sprague de Camp, c'est quelqu'un qui voit très tôt le potentiel de la série et l'argent qu'il peut en tirer. Il le fait dès 51-52. Il essaye véritablement de faire en sorte de pouvoir vendre Conan. Il va mettre 15 ans à y arriver. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est chez Lancer. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui disent, mais attendez, c'est grâce à Sprague de Camp que Conan a pu survivre, entre guillemets, qu'il a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Or, c'est quelqu'un qui, pendant 15 ans, a fait que Howard n'a pas pu être réédité correctement. Donc, c'est totalement différent. C'est un monsieur, Sprague de Camp, qui, lorsqu'il a vu les couvertures de Frazetta, il a dit, mais c'est horrible. Ce type, c'est pas dessiné. Et puis, Conan avec les cheveux longs, c'est quoi ce hippie? Donc déjà, il n'était pas Frazetta. Deuxième chose, lorsque les nouvelles sont parues, elles sont parues chez Lancer Books, avec les couvertures de Frazetta. Donc, et Lancer Books, c'était... selon les dires de Sprague de Camp, je crois la 17e maison d'édition qu'il allait voir. Il y a 16 maisons d'édition qui ont refusé de publier Conan avant. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Sprague de Camp l'a jamais dit. Tout simplement parce que Sprague de Camp a imposé de rééditer ses propres textes avec les textes de Howard et que tout le monde a refusé, sauf les derniers, Lancer. Et Lancer Books se moquait un petit peu de savoir ce qu'il y avait dedans, puisqu'en fait la finalité première de Lancer, c'était de blanchir l'argent de la mafia. Donc c'était une entreprise de blanchiment d'argent. Et donc les textes paraissent juste parce que, ah bah oui, il nous faut un truc, voilà. Et donc, voilà comment ça paraît. Et c'est quelqu'un qui sait. Pourquoi est-ce que ces éditions-là, sur lesquelles j'ai travaillé d'abord en Angleterre, aux États-Unis, ne sont parues qu'à partir de 2001 c'est parce que Sprague de Camp s'est opposé à ce qu'on les fasse. Point.
D'accord.
Il avait le droit à l'époque, d'un point de vue légal, pour des raisons très complexes, je ne vais pas rentrer dedans, mais en tout cas, il pouvait le faire. Et il l'a fait.
Très bien.
un individu sympathique et de bon goût.
Venons un petit peu à l'aventure éditoriale qui te concerne. À partir de quel moment tu as commencé à travailler justement sur Howard et sur Conan? Et parle-nous, tu le disais, des éditions anglaises, américaines.
Alors j'ai commencé en fait, c'est grâce à Truchot, très clairement, il y a très longtemps de ça, dans une autre vie antérieure, j'animais une émission radio sur le fantastique. Et donc un jour on décide de faire une spéciale Howard et d'interviewer Truchot. Donc François Truchot à l'époque pour moi c'est Dieu. Donc, j'appelle Truchot, j'appelle Dieu. Et je découvre un type mais super sympa, il me dit bah oui super, on fait une interview, etc. 2 ans après, j'habitais en province, je monte sur Paris et puis Truchot m'accueille chez lui. Il me fait dire ben voilà tu peux écrire à Glenn Lord, tu verras c'est quelqu'un de très très gentil. Je dis ok d'accord. À cette époque je rentre en fac et je me lance dans l'aventure de faire un mémoire de maîtrise qui sera su après d'un Master 2 sur Howard, mais à l'époque, j'imaginais même pas que ce soit possible, et je tombe sur un prof de fac qui me dit, mais allez-y, faites un truc sur Howard. Attendez, c'est pas Hemingway, c'est pas Orwell, les auteurs vont me dire, non, allez-y, moi j'ai fait une thèse sur Blackwood. Ah, ben, j'ai dit, ok, d'accord, super. Et donc, du coup, je suis parti aux États-Unis, et j'ai commencé d'abord à correspondre, et puis ensuite à voir plus ou moins régulièrement Glenn Lord. Donc, Glenn Lord, c'était l'agent littéraire d'héritier de Howard, et c'est surtout quelqu'un qui a traqué les manuscrits howardiens pendant des années, et qui, il est mort il y a un an et demi maintenant, qui avait dans sa collection environ 25 000 pages de manuscrits de Howard. Et je ne sais pas pourquoi, ce monsieur m'a pris en sympathie, il a dû voir que j'étais aussi fou qu'il pouvait l'être, j'imagine, et il a commencé à me faire des photocopies des originaux de Howard. Et ça a commencé par la correspondance Howard Lovecraft, je l'ai eu il y a quasiment 25 ans de ça, quoi. Et alors que personne ne l'avait vu. Et j'ai dit, oh, je vois ça, et il commence à m'envoyer des nouvelles de Conan, des manuscrits, des premiers jets, des brouillons, des choses comme ça. Et j'ai commencé à collectionner ça. Alors au début, c'était super artisanal. Hein. J'avais des lutins avec des photocopies dedans. Tous les mois, ils m'envoyaient 300, 400, 500 pages de manuscrits. Et ce qui fait que très rapidement, j'ai commencé à préférer lire les nouvelles sur manuscrits, sur photocopies plutôt que sur bouquins, que j'ai commencé à être capable d'identifier, de dater un manuscrit rien qu'en regardant l'aspect du papier, les erreurs, les trucs il y a une sorte de croissant qui apparaît au-dessus des points d'interrogation, ça apparaît qu'à partir de 29, enfin, plein de petits détails qui fait que j'étais capable de dater un manuscrit rien qu'en le regardant. Et un jour, j'écris un article qui s'appelle « La naissance de Conan » pour une revue semi-pro américaine dans laquelle je raconte comment est-ce que Howard, non pas comment est-ce que Conan, le personnage, est né, mais j'ai appelé ça volontairement « La naissance de Conan » pour montrer que c'était bien un personnage littéraire. Et donc dans cet article, j'explique comment est-ce que, alors c'était une ébauche de ce qui va apparaître plus tard dans les bouquins, mais comment est-ce que Howard en est venu à créer le personnage en 32, son voyage, etc. J'ai un petit peu refait le parcours, analysé la correspondance, les papiers, etc. Et 2-3 ans après, lorsque l'éditeur anglais Wandering Star acquiert finalement les droits de Conan, il connaissait mon travail et puis un jour, c'est Marcel Anciano qui me dit, est-ce que ça te dirait de diriger l'intégrale Conan? Pardon. Quoi? Je dis, oui, bien sûr. Je dis, c'est fou, je me dépêche de dire oui parce que bon voilà, moi je me voyais pas honnêtement en tant que petit français être ce qu'on me demande un jour de diriger une intégrale aussi prestigieuse que Conan. Et donc j'ai dit oui tout de suite. Et puis donc il y avait un projet qui existait vaguement à l'époque, c'était pas très 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 établi. Et j'ai commencé à plancher sur le projet. Et donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire ce qui va devenir l'intégrale en Angleterre chez Wandering Star, qui est par ensuite aux États-Unis chez Del Rey et en France chez Brashland.
L'état des pour l'aventure française, hein, l'état des traductions. En France, quand tu reprends tout ça?
C'était une découverte, c'est une aventure, on va dire. Au départ, je voulais pas du tout les traduire, parce qu'à la base, j'étais pas traducteur. J'ai fait donc comme Truchot, je me suis improvisé un traducteur. Et en fait, j'ai commencé à voir ce qui existait, et il y avait 4 traducteurs. Il y en avait une, c'était, enfin, c'était juste mauvais, quoi. Je ne vais pas faire de critique plus méchante que ça. Il y avait un autre traducteur qui était très bon, je n'ai pas lancé de nom, hein, mais il y a un autre traducteur qui était très bon, mais qui par contre ne connaissait strictement rien à la fantasy. Donc, sous sa plume, Conan devenait une sorte de série moyenâgeuse très fleurie. Et donc, c'est lui qui a traduit la première version du. Alors, pas Berger, mais il traduit le Phénix sur l'épée. Et donc, dans le Phénix sur l'épée, à un moment, il y a Conan qui se promène dans une trouve un souterrain. Et il rentre, et puis il voit des bas-reliefs avec Cthulhu, etc. Donc, les bas-reliefs qui représentent les grands anciens. The Great Old Ones. Et le traducteur lambda, n'ayant jamais lu de fantasy, The Great Old Ones, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, dans sa version, ça devenait Conan qui voit des bas-reliefs de ses vénérables ancêtres. Et voilà, ce genre de choses. Il y en avait un autre traducteur qui avait coupé 30% environ de la matière, enfin, un truc classique. Et tous ces textes-là se basaient sur des éditions trafiquées, caviardées par Sprague de Camp, et qui elles-mêmes étaient trafiquées, caviardées par Weirtels à l'époque. Donc il y avait un tel boulot que c'était même plus la peine de réviser quoi que ce soit. Il fallait automatiquement reprendre tout depuis le départ.
Il fallait tout retraduire, ça veut dire que... Il y a combien? Il y a 30% de volume en plus et des textes quasiment inédits?
Il y a des textes totalement inédits.
Ouais.
Puisqu'il y a des nouvelles que Sprague de Camp trouvait intéressantes, mais pas suffisamment. Donc il les réécrivait à 30 ou 40%. Il y a trois nouvelles qu'il trouvait pas mal, tellement bien d'ailleurs qu'il les a réécrites complètement en les paraphrasant. Ça veut dire que c'est pas le texte de Ward, c'est la même histoire, mais chaque phrase est refaite et paraphrasée par Sprague de Camp. Voilà, ce genre de choses. Enfin, c'était aberration sur aberration.
Ouais.
Donc il y a un moment, j'ai dit, bon, mais stop, quoi. Et c'est pour ça, ça m'a permis en fait de faire ce travail qui a été de dire, on va carrément tout reprendre, c'est au-delà du texte, c'est même la présentation. Ça veut dire, je ne voulais pas d'ordre biographique de la vie de Conan, pour moi c'est un tel non-sens que j'ai dit, ben voilà, je vais commencer par faire quelque chose que personne n'a jamais osé faire avant moi. C'était, la première nouvelle, c'est le phénix sur l'épée. Alors pour beaucoup de gens, c'est quasiment une des dernières, parce que Conan est roi. Et quelqu'un qui découvre Conan pour la première fois, il dit, ah, j'ai découvert les aventures d'un gros barbare musclé en slip de fourrure. La première fois qu'il voit Conan, il voit Conan assis dans un palais avec un stylo en train de dessiner une carte. Donc, ah, tiens, c'est celui, c'est ces personnages-là dont j'entends parler. Et en fait, non, il y a eu vraiment un électrochoc. Et l'électrochoc était voulu, c'est aussi pas un hasard s'il y a trois volumes. Dès le départ, j'ai dit, bah voilà, je vais faire un pendant au Seigneur des Anneaux, il y aura une trilogie Conan et une trilogie Tolkien. C'est tout, enfin, tout ça, ça a été... Oui, c'est très politique, en fait, de ma part.
C'est très pensé. En termes d'aventure éditoriale, la discussion avec Bragelonne, trouver un éditeur, ça a été facile.
Alors, à l'époque...
Comment s'est fait la rencontre? C'est eux qui t'ont contacté? C'est toi qui les as contactés?
À l'époque, je travaille quasiment que pour les anglo-saxons. Pas quasiment, je ne travaille que pour les anglo-saxons ou les américains. Et une fois que j'avais fait les Conan pour Wandering Star, j'avais fait des volumes pour Del Rey, donc j'avais dirigé Cull aux États-Unis, j'avais travaillé sur Brian McMahon, sur un bouquin illustré par Frazetta. Puis je me suis dit, il y a un moment peut-être que je fasse ça en France, quoi. Ça serait quand même que je sois un peu prophète dans mon pays. Et donc à l'époque, je me suis dit, ok, est-ce qu'il y a en France un éditeur de fantasy qui aurait les épaules solides pour mener ce projet, que je trouvais déjà très ambitieux comme projet. Puis tout le monde me dit Bragelonne. Ah, je dis, c'est qui? Voilà. Donc ça situe d'où je viens. Je ne connais absolument rien du monde de la fantasy à l'époque. Et donc on me dit, tout le monde me dit Bragelonne. Je dis ok, je me renseigne un peu. Et puis donc j'appelle Bragelonne. Donc c'était des temps préhistoriques puisque j'appelle Bragelonne et je tombe sur Stéphane Marsan. Je dis, mais aujourd'hui il y a 18 secrétaires au moins avant d'arriver à Monsieur Marsan. Et là je lui dis voilà, je me présente, je m'appelle Patrice Touminet. Est-ce que ça vous dirait de publier Conan? Et là j'entends un truc qui fait oui bien sûr. Vous êtes très gentil, mais voilà, ok, d'accord. Rappelez-moi. Non, mais sérieusement, est-ce que je peux vous amener Conan? Voilà, je sens qu'à un moment d'hésitation au téléphone, puis il me dit, bon, ben ok, vous passez tel jour. Et donc, je me pointe 3-4 jours plus tard chez Bragelonne. Et là, je viens avec les éditions américaines, donc qui sont des éditions super luxe, avec de très très belles illustrations, plus un lutin avec 250 photocopies de manuscrits originaux de Ward en photocopie. Et là, je pose ça sur le bureau, et là, je vois le... Stéphane Marsan commence à avoir un sourire, fait « Ah ouais, effectivement !» Et on a commencé à causer à ce moment-là. Et puis ça a mis, je crois, 2 ans pour se faire, entre le moment où on a dit « Ok, c'est bon, on va le faire », et puis le moment où les bouquins vont commencer à apparaître. Mais oui, ça a été un oui tout de suite. Ça a été... il était super content. Donc moi aussi.
3 volumes, et du coup, vous avez attaqué d'autres cycles.
Voilà, en fait, au départ, on était parti pour faire juste Conan. Et puis... Et puis rapidement, voilà, j'ai dit, ce qui m'intéresserait, ce serait de faire un quand même de faire découvrir que Howard, c'était pas que Conan. C'est évident que d'un point de vue commercial, c'était par Conan que je pouvais faire vendre entre guillemets Howard. Mais moi, je voulais faire parler d'autre chose. Donc très vite, lorsque le deuxième volume est paru, j'ai dit, ben voilà, j'aimerais faire un truc, c'est qu'avant de faire paraître le troisième Conan, faire paraître Solomon Kane, qui est donc un autre personnage de Howard, entre le Conan 2 et le Conan 3. J'ai dit, l'idée, c'est très simple, c'est que les gens, quand j'ai les deux premiers Conan, et s'ils doivent attendre un peu de temps avant d'avoir le troisième Conan, et qu'il y a un autre personnage Howardien qui est au milieu, peut-être qu'ils vont essayer de découvrir aussi cet autre personnage avant de découvrir le Conan 3. Et c'était facilité par le fait que le Solomon Kane était illustré par le même artiste que le deuxième Conan, Gary Jenny. Et puis ben Marsan me dit ok. Et donc du coup on fait paraître Solomon Kane. Et Solomon Kane marche super bien parce qu'il a, il fait deux tirages très vite. Et Conan 3. Et du coup ben, voilà, Stéphane me dit ben, ok, on continue. Et on fait une sorte d'intégrale que j'avais prévue en 12 volumes et on va arriver à 12 volumes.
D'accord. Il reste quoi encore maintenant à
paraître ? Il reste deux volumes à paraître. Donc un qui est le dernier recueil de nouvelles fantastiques d'aventures d'horreur hors personnage et un recueil d'aventures historiques qui va s'appeler Agnès la Noire.
Très bien. On arrive un petit peu au bout hein, de cette table ronde. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Ouais, je vous apporte le micro qu'on vous entende bien.
Un, deux.
Ça marche.
Bonjour. Donc, vous avez parlé des correspondances entre Lovecraft et Howard. Est-ce qu'on pourrait un jour éventuellement envisager l'édition de la correspondance ? Est-ce qu'il y aurait un réel intérêt pour le public ?
Alors, est-ce qu'il y aura un réel intérêt ? J'en sais rien. J'aimerais beaucoup. En tout cas, la correspondance Howard-Lovecraft est en... Il y a un projet qui est très avancé. Avec des éditeurs intéressés. Pour l'instant, c'est pas signé, mais oui, j'espère pouvoir le faire l'année prochaine, dans un an et demi maximum. J'aimerais beaucoup. En tout cas, oui, j'ai ça en projet avec quelqu'un qui s'occuperait de la partie Lovecraft. Donc, en fait, un spécialiste Lovecraftien pour Lovecraft et moi sur la partie Howard, faire une belle édition de cette correspondance-là. Maintenant, une correspondance, par définition, ça reste un. Ça va toucher un public restreint. Et donc, il reste la question financière, parce qu'en termes de volume, c'est juste énorme. Donc après, voilà, est-ce qu'on pourra le faire d'un point de vue financier ? Je ne sais pas. C'est un Kickstarter, pourquoi pas.
Est-ce que quelqu'un a une autre question ?
Oui.
J'ai une question très terre-à-terre. Mm-hmm. C'est au sujet de Sprague de Caen.
Oui.
Comment a-t-il fait pour une telle mainmise sur l'œuvre d'Howard ? Des droits, une question de copyright, comment a-t-il fait ?
Les deux, en fait, c'est quelqu'un qui a, lorsqu'il a fait ses études, il a eu un major à l'université sur la question des droits littéraires. Et donc, il a hanté la bibliothèque du Congrès dès 1963-1964 pour savoir quand est-ce que les nouvelles de Howard tombaient dans le domaine public. Il a fait des erreurs, il pensait que ça tombait dans le domaine public vers 1964. Il a commencé à faire des manœuvres dès 1952-1953 auprès des ayants droit de l'époque. Et en fait, il a fait valoir que les éditions américaines valaient leur succès du fait de son travail éditorial. Donc au départ, il s'est vendu en tant qu'éditeur, donc quelqu'un qui était responsable de la publication aux États-Unis. Et ça s'est transformé en véritable pourcentage lorsque les gens qui ont fait le Milius, le film de Milius, lorsque l'idée d'un film a commencé à apparaître, ils sont allés voir les gens qui avaient les droits. Et puis ils se sont rendus compte qu'en face d'eux, il y avait Glenn Lord, il y avait Les Héritiers, il y avait Sprague de Camp, il y avait Lynn Carter, il y avait, bref, plein de gens qui étaient en train de se taper dessus sans arrêt. Donc, ils ont dit un truc très simple, les gens de la Universal, ils ont dit, ben voilà, vous mettez autour d'une table, vous discutez, vous arrivez à la fin avec un accord signé, un contrat, et parce que nous, on ne veut pas parler à cinq personnes différentes, on veut un interlocuteur. Et donc, ils sont mis autour d'une table, ils ont discuté, et ils ont signé en fait un contrat dans lequel chaque partie avait un pourcentage sur Conan. Donc ce qui fait que pendant ça s'est fait en 77, et ce qui fait qu'entre 77 et 2000, dès qu'il y avait un projet Conan qui apparaissait, il fallait avoir l'aval de la CPI qui était contrôlée en très grosse partie par Sprague de Camp, qui touchait plus d'argent en fait que les héritiers d'Oa. Ah non, c'était Bandyman.
Des mecs propres. Est-ce qu'il y a encore une petite question ?
Une question.
Question la réponse risque d'être bizarre alors. Hein, donc, pourquoi, la réponse est non.
Pourquoi le cinéma n'arrive pas à se dégager de cette image de barbare en pagne, parce que c'est un personnage profond, il y a quand même beaucoup de monde qui a lu depuis, etc. Alors pourquoi on n'arrive pas à se dégager de cette image basique?
Parce que c'est Hollywood. J'ai eu de très très longues. Donc j'étais pas dans le secret pour les films précédents, mais j'ai été au courant très tôt du développement du Momoa. Donc avant, enfin voilà, j'ai vu pas mal de choses. Et j'étais en discussion permanente avec Frédéric Malmberg, qui est le producteur du film, qui est le PDG de Paradox aujourd'hui. Et on avait une discussion. Et j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui ne comprenait pas ce que je lui disais. Et lui me disait, ouais, mais c'est Hollywood. Et Hollywood, les gens, ils veulent un reboot, ils veulent une franchise, ils veulent un crétin. C'est hallucinant. Je disais, mais Conan n'a pas d'origine. Il me dit, oui, mais il faut une origine. C'était à l'époque de Dark Knight Returns. Donc, c'est, voilà, il nous faut une origine. Je dis, non, un film dans lequel le personnage n'a pas d'origine ne marche pas. Je dis, James Bond. La trilogie d'Eastwood. Enfin, son nom, j'aime pas trop appeler ça comme ça, mais bon. Je dis, quand on voit un James Bond, on se fout de savoir ce qu'il mangeait à la cantine quand il était petit. Ça me paraît d'une évidence redoutable. Je dis, Conan, pour moi, un vrai film de Conan, tu commences par faire, tu adaptes, tu prends le premier chapitre de, je sais pas, La Reine de la Côte Noire, par exemple, où il y a Conan qui explique qu'il était, je sais pas si vous voulez la nouvelle, mais c'est Conan qui explique qu'il a dû fracasser le crâne du juge parce qu'il comprenait pas pourquoi il trahir ses amis. En une page, vous avez, en trois scènes de film, en pré-générique, en fait, vous avez compris qui est Conan. Et après, ben voilà, le film démarre. Mais ça, ils en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et alors, j'ai beaucoup discuté sur le Momoa, sur voilà ce qu'il faut faire, et faites ça comme ci, faites ça comme ça. Et rien. Rien. Donc c'est un peu décevant. Voilà, donc là, il y a Arnold qui va faire un Conan le retour. Donc il a 65 ans, il va nous faire un truc qui ne sera évidemment pas adapté de Howard. Mais c'est juste inespéré pour Paradox, puisque ils avaient plus ou moins coulé après l'échec du film de Momoa. Ça risque de ressembler à un Legend, à part que le héros s'appellera Conan et pas de Russe, c'est tout. Et ensuite, si le film fonctionne, peut-être que Malmberg veut adapter une nouvelle de Ward ensuite, au cinéma. On peut rêver, on peut espérer. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut très clairement pas attendre quoi que ce soit d'Hollywood sur une adaptation fidèle de Conan, et je dis bien Conan. Par contre, peut-être que sur d'autres personnages moins connus, on pourrait s'attendre à autre chose, on va dire plus fidèle. Point de suspension.
Les slips en fourrure ont de beaux jours.
Ouais.
Oui, est-ce qu'il existe une biographie en français, ou est-ce qu'il y a...
Il y a un très très bon travail de Fabrice Torté dans Écho de Cimérie, qui est un bouquin qui est paru il y a un an et demi à l'œil du Sphinx, et qui est ce qu'on a de plus complet en France en termes de biographie. Ça fait dans les 60-70 pages, et c'est très très bon. J'ai pour projet de faire une bio d'Howard, mais les journées ne faisant malheureusement que 24 heures, ça sera peut-être pas forcément pour demain. Voilà. Mais oui, effectivement, j'aimerais bien faire ça un jour, dès que je pourrai.
Voilà, vous avez compris qu'on peut passer beaucoup, beaucoup de temps avec Patrice à discuter de tout ça. Malheureusement, la prochaine table ronde est en train d'arriver. Merci à vous, merci à Patrice, et puis n'hésitez pas à aller encore discuter avec.